Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être en compagnie de mes trois invités, tous les trois en lien avec le journalisme. C'est le point commun et le point de départ de notre échange aujourd'hui. Claire Blandin, vous êtes historienne des médias.
Bonjour.
Spécialiste de la presse magazine. Et vous signez une belle biographie chez Fayard, Hélène Gordon-Lazareff, titre éponyme, consacré à une grande patronne de presse dont on va parler ensemble aujourd'hui. Paula Jacques, vous êtes journaliste et avec mon oncle de Brooklyn chez Flammarion, vous racontez les tribulations de Eva, une jeune journaliste française arrivée à New York et qui va plonger dans la communauté juive de la ville tout en cherchant à interviewer Toni Morrison. C'est son objectif. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bernard Thomasson, vous êtes journaliste à France Info et vous arpentez la Maison Ronde, comme on dit, dans votre dictionnaire amoureux de la radio et de la musique que vous publiez chez Plon.
Bonjour, oui, absolument.
Bienvenue. Pour commencer, j'aimerais revenir sur votre lien à chacun et à chacune, lien avec votre sujet. Claire Blandin, qu'est-ce qui vous lie à Hélène Gordon-Lazareff pour commencer? Qu'est-ce qui vous lie à l'objet de votre livre?
Alors, ce qui me lie à Hélène Gordon-Lazareff, au départ, c'est le magazine qu'elle a créé, le magazine Elle, qu'elle crée donc tout de suite à la Libération, en novembre 1945. Moi, je suis historienne des médias, je suis plutôt historienne de la presse écrite, de la deuxième partie du XXe siècle, et j'ai travaillé pendant... Je travaille depuis presque 15 ans maintenant sur le magazine Elle, et c'est pour ça qu'on m'a proposé, en fait, à un moment donné, de travailler sur cette personnalité qui est assez mal connue, il faut bien le dire, du grand public, mais aussi des journalistes et encore plus des étudiants.
Paula Jacques, qu'est-ce qui vous lie à Eva, que j'aimerais bien appeler une sorte de double littéraire? Là, on est vraiment du côté de la fiction avec vous.
Voilà. Alors, j'ai toujours soutenu, parce que je faisais ce métier de journaliste, mais en même temps, j'écrivais des romans. Et on me posait la question, est-ce que d'être journaliste, ça vous aide à écrire des romans? Je disais non, il n'y a aucun rapport. Et mon émission s'arrête, et pour la première fois de ma vie, je me sers de mon expérience de journaliste, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai pu rencontrer, pour écrire un livre dont l'héroïne est une journaliste. Donc, il n'y a peut-être pas de hasard. C'est en quittant la radio que la nostalgie de la radio me fait écrire ce livre, peut-être.
On parlera des liens entre elle et vous pendant cette rencontre. Bernard Thomasson, cette maison de la radio, alors, qu'est-ce qui vous lie si fort à elle?
Mon métier.
Pour en faire un dictionnaire amoureux.
Oui, oui, mon métier. Elle a 60 ans le 14 décembre prochain. Et moi, j'y travaille depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que je franchis les portes de ce bâtiment exceptionnel tous les jours. Et qu'au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne la regardais même plus. Le confinement m'a éloigné un petit peu d'elle, parce que les conditions de travail étaient compliquées. On a fait beaucoup de télétravail. Et c'est un peu comme dans un vieux couple, hein. Le manque crée le désir. Et je me suis aperçu que de ne plus franchir ses portes, et puis surtout de me rendre compte que je ne la regardais plus, quoi. Il y a à l'intérieur des œuvres d'art incroyables, il y a du Soulages, du Manessier, du Singier, des mosaïques, des choses comme ça, que les gens qui travaillent dedans, enfin Paula, vous le savez, hein, on a oublié de regarder, puis son histoire, etc. Et j'avais envie de raconter voilà, cette maison incroyable pour son époque et encore incroyable aujourd'hui.
Je dois dire, vraiment, les gens qui travaillent dans la maison de la radio, moi, on adorait cette maison. On aimait cette rondeur. C'est rond, c'est en rond, c'est comme un ventre chaud avec ce pilier au milieu. Et vraiment, on allait travailler avec bonheur. C'est rare, les métiers où on va travailler avec bonheur. Et je crois qu'on avait un attachement profond à la maison. Surtout, moi, je travaillais le dimanche et j'arrivais. Les lieux étaient vides et c'était une atmosphère particulière. On avait l'impression de posséder un peu le bâtiment. C'était magique.
C'est pas pour rien qu'on dit la maison d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très affectueux dans le terme.
C'est drôle de parler de la maison pour aller travailler quand même.
Oui, mais bon. C'est assez fort.
Mais il y a des ondes positives qui tournent dans cette maison. C'est Eric Antoine, le magicien, qui est un ami et l'animateur télé, qui m'a dit un jour, là-dedans, c'est rond, pour reprendre notre expression,
exactement.
Ça barate l'énergie, ça barate comme le beurre. Donc il y a une énergie incroyable qui tourne là-dedans, une énergie humaine forcément. Il y a une alchimie humaine qui se crée, parce qu'il n'y a pas que des émissions de radio, il y a des orchestres, enfin il y a plein de trucs.
Oui, on le ressent très fort dans votre dictionnaire.
Les formes rondes sont apaisantes pour l'être humain. Je ne sais pas pourquoi il faudrait un architecte pour nous expliquer ça, mais il y a quelque chose d'apaisant dans les architectures rondes, non?
Oui, oui. Alors là, elle est ronde pour une raison particulière que j'éclairerai peut-être tout à l'heure si vous me posez la question. Mais moi, je ne suis pas psychologue ni psychiatre. Je peux vous le dire tout de suite?
Allez-y.
Non, c'est parce que Henri Bernard, l'architecte de la maison de la radio, a eu des contraintes incroyables pour faire cette maison. On lui a dit l'acoustique d'abord, donc le lieu un peu éloigné de toute station de métro pour ne pas avoir les vibrations. Et puis des murs dans les murs. Donc chaque studio est une boîte dans la boîte avec un vide entre les deux. C'est-à-dire que les studios sont vraiment séparés les uns des autres. Et puis on lui a dit, surtout les studios, vous savez, il ne faut pas qu'ils soient rectangulaires parce que le son se reflète d'un bord à l'autre. Il faut que les studios soient un petit peu en pointe comme ça. pas des triangles, mais voilà. Et alors, il a fait ses studios, tu sais, puis il les a posés les uns à côté des autres. Bon, vous mangez du camembert. La boîte de camembert, les triangles posés les uns à côté des autres, ça fait un rond. Et en plus, on lui a dit, il faut qu'au cœur de la maison de la radio, il y ait les producteurs, les studios de fabrication, qu'on ait accès aux archives, qu'ils soient toutes proches, que le centre de liaison avec l'extérieur soit à côté. Donc voilà, le rond. Au centre, il y avait les studios de diffusion. Au-dessus, il a mis une tour pour les archives auxquelles on pouvait accéder directement et rapidement. Et puis, le centre de liaison était là aussi. Et la périphérie a servi aux grands studios où on fabriquait les émissions en amont, qui étaient ensuite diffusées. Vraiment, le direct, c'était au cœur. Et puis, à l'autre partie de la périphérie, c'était les grandes salles avec... Alors maintenant, c'est l'auditorium, qui est magnifique, mais à l'époque, il y avait le 102, toutes les émissions de Guy Lux, etc. Coucou, c'est nous, c'était là. Et puis, de l'autre côté, il y avait le 104, qui était le grand studio des orchestres symphoniques, et au milieu, un petit studio qui a disparu aujourd'hui. Voilà pourquoi la maison est ronde.
Alors, on commence avec passion, avec la radio. Continuons un petit peu avec la presse écrite. Cette figure donc, de Hélène Gordon-Lazareff, dont vous faites la biographie, Claire Blandin, on ne va pas pouvoir revenir sur toute sa vie, qui est assez passionnante et que vous déployez dans ce livre. Très agréable, très facile à lire. Alors, on va se traiter sur quelques points. Moi, j'étais pas mal intéressée par le début de sa vie. Je me suis demandé si vous romantisiez pas un petit peu cette femme, cette mariée très jeune, ce divorce, cette rencontre avec cet homme avec qui elle va nouer une relation de travail fascinante, très forte. Voilà, ce début, comme ça, m'a vraiment plongée dans sa vie. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu de mythe derrière tout ça.
Ah bah, c'est une vraie héroïne. Hein. Alors, oui, c'est fascinant. D'abord, c'est une femme qui traverse le XXe siècle. Hein. Elle naît en 1909, elle meurt en 1988. Et effectivement, pour une femme de sa génération, d'abord, elle traverse physiquement des espaces très variés. Il y a des histoires de migration hein, au cœur de son parcours, hein, puisqu'elle elle fuit d'abord enfant la révolution russe, arrive à Paris, elle est lycéenne à Paris dans les années 1920. Et puis, effectivement, elle se marie très jeune, elle a une fille tout de suite à 19 ans, et elle divorce tout de suite. Et une fois qu'elle a divorcé, elle devient l'amante de Philippe Soupeau et d'un certain nombre d'autres surréalistes. Elle découvre comme ça la littérature et elle reprend des études d'ethnologie. Et elle part avec Marcel Griol et toute l'équipe qui est en train de fonder le Musée de l'Homme. Elle part au début des années 30 au pays d'Ogon, donc au Mali, où, pour faire des observations en fait, et où elle va être sur le terrain pendant plusieurs mois avec eux. Et en fait... je prends un peu de temps pour ça parce que c'est ça qui lui donne la passion du journalisme.
C'est vraiment sur l'origine. Ouais.
C'est ça qui va lui donner l'idée de raconter. Et sa passion, en fait, ça va être ça. Ça va être raconter ce qu'elle voit, sentir le monde qui est autour d'elle et le transmettre. Et donc, c'est ce qu'elle commence à faire au retour de cette expédition. Et puis, dans une soirée où se mélange ce groupe des ethnologues, grands voyageurs, c'est l'époque de... Il y a Paul-Émile Victor dans cette soirée-là, par exemple. Elle rencontre Pierre Lazareff, qui, lui, est déjà à la tête donc, de Paris Soir, un très grand quotidien. Et ils vont voilà, nouer une relation qui va être une relation passionnée, passionnante aussi à étudier. Ils vont former un couple, ils vont avoir une relation de travail extrêmement forte et ils vont régner sur la presse française quand même, hein, du milieu des années 30 au milieu des années 60. Ça va être un couple complètement mythique et ils vont animer des très très grands quotidiens et des magazines très importants.
Mais c'est toute seule, pour le coup, qu'elle crée le journal Elle, de retour des États-Unis, d'un séjour aux États-Unis, très inspirée. Oui. Elle a du flair, vous dites à plusieurs reprises, oui. C'est un terme qu'on utilise souvent pour parler des bons journalistes. Elle oui. sent les sujets, les formes, oui. les moyens de communiquer. Et voilà, va naître comme ça le fameux journal Elle,
oui.
dont
Alors,
vous laissez une grande place dans le livre.
Le journal Elle, il naît effectivement beaucoup de son séjour aux États-Unis. Donc Pierre et Hélène Lazareff sont juifs. Ils quittent tout de suite Paris lorsque les Allemands arrivent, donc mi-juin 1940. Ils partent à New York et ils vont passer toute la période de l'occupation à New York. Et à New York, Hélène Gordon-Lazareff, elle a déjà des contacts dans la presse magazine, hein, elle a déjà fait le voyage plusieurs fois, elle connaît notamment la rédaction du Harper's Bazaar, et elle va travailler pour eux pendant toute cette période de l'occupation, et pour elle, c'est une période formidable, enfin, c'est une période d'épanouissement professionnel. À l'inverse de Pierre Lazareff, qui, lui, est en dépression totale. D'abord, il n'arrive pas du tout à parler anglais. Il est enfermé chez lui. Il n'arrive pas à refaire le contact et à retourner dans la vie. Il est très inquiet pour sa famille qui est en Europe, etc. Enfin, voilà. Pour lui, c'est une période difficile. Mais pour elle, c'est un moment d'autonomisation. Vraiment, c'est un moment où elle va, d'une certaine manière, prendre le pouvoir dans leur couple. Elle va se dire qu'elle peut oser un certain nombre de choses. Et puis, elle découvre la société de consommation. Sa grande découverte, c'est ça, en fait. C'est l'Amérique. Donc, elle découvre l'Amérique des années 40, où on a déjà des mouchoirs en papier, du rouge à lèvres, des banilons, enfin, des choses qu'elle va vouloir apporter aux Françaises après la libération. Et son vrai projet, c'est vraiment ça. Son vrai projet avec son magazine, c'est un projet de faire évoluer les consommations des Françaises. Et c'est ce qui va se passer, en fait, pendant cette période que les historiennes appelaient, jusqu'à il n'y a pas longtemps, les 30 glorieuses, 1945-1975. Elle va participer avec son magazine à ce développement économique des loisirs et de la consommation.
C'est vrai que la grande histoire est tout le temps présente dans votre livre. C'est noué en permanence au parcours de cette femme. L'histoire aussi, elle est très importante, la grande histoire, dans votre dictionnaire. Puisqu'évidemment, l'histoire de la Maison de la Radio... est aussi lié aux grandes étapes, aux grands bouleversements du XXe. Voilà, je trouve que c'est très fort aussi dans votre dictionnaire, la place de l'histoire.
La Maison de la Radio appartient à l'histoire, d'abord l'histoire de la radio et de la télévision française. Je le disais tout à l'heure, c'est là qu'ont eu les premières grandes émissions télé, les grandes émissions de radio également. Et puis elle appartient à l'histoire de France, tout simplement, parce que, comme je le disais aussi, le général de Gaulle se l'est approprié, cette Maison de la Radio, qu'il n'avait pas voulu. Elle a été lancée sous Vincent Auriol et sous René Coty. Mais quand il l'a inauguré, il a parfaitement compris le rôle qu'il pouvait tirer de cette Maison de la Radio comme un porte-voix. D'ailleurs, il disait à l'époque, je veux donner la voix de la France à l'étranger. La construction de la Maison de la Radio appartient déjà à l'histoire de la France, parce qu'on est dans une période post-guerre, et là je vais parler sous le couvert de l'historienne, mais la France, à ce moment-là, veut montrer sa puissance face aux autres nations, notamment les États-Unis, etc. Et c'est une France... constructive. C'est le moment où, alors dans les années 50-60, les grands barrages hydrauliques, la fusée Diamant, et la Maison de la Radio, elle appartient à ça. C'est-à-dire qu'on prouve au monde qu'on est capable de construire un bâtiment incroyable dans Paris, un cercle d'acier et de verre, l'acier qui n'a jamais été utilisé dans l'architecture à cette ampleur-là. Il y a quelques bâtiments à New York qui utilisent des petites facettes en verre, mais là, toute la Maison de la Radio est en aluminium et en verre. Des façades de verre de 12 mètres de haut, on dit que c'était les plus hautes d'Europe et peut-être même du monde à l'époque. Donc la France veut montrer par cette Maison de la Radio aussi sa puissance technologique. C'est un laboratoire à l'époque incroyable de moyens de communication, ça l'est encore aujourd'hui avec les nouvelles technologies. Et puis puissance artistique, il y a à l'intérieur de la Maison de la Radio des artistes qui ont été mis en place avec la volonté d'Henri Bernard, des grands artistes de l'école de Paris de l'époque, et qui sont toujours là. Il y a un très beau Soulage, alors c'est une tapisserie, il a fait la peinture, mais qui a été retranscrite en tapisserie par des artisans de Feltin, pas très loin d'ici, qui est gigantesque. Il y a un Manessier. Alors Soulage, c'est rigolo parce que c'était bien avant l'Outre-Noir. Mais déjà, quand on lui a montré le lieu, l'espace, imaginez un grand hall comme ça, c'est un des foyers de la Maison de la Radio. Des grandes baies vitrées sur le côté, exactement comme ça. Et au fond, un mur immense. Et Soulage, il y avait un banc. Parce qu'il y avait des bancs de décorateurs. Les grands décorateurs étaient là, Paulin aussi. Et il y avait un banc noir, peut-être Le Corbusier d'ailleurs, qui était là. Et Soulage invente un truc avec des traits noirs qui montent comme ça et qui font une envolée, une espèce d'envolée lyrique. Alors est-ce que c'est l'envolée de la musique, du son qui... On ne sait pas, il n'a jamais expliqué ça. Mais ces barrettes noires sont entourées d'autres couleurs. Et on sent déjà peut-être les prémices de l'Outre-Noir qui sont là. Il y a une force qui existe dans ce tableau, qui a été remis en valeur. C'est un endroit magique. J'en parle avec émotion parce qu'à chaque fois que je me force à y aller dans ce qu'il a été réhabilité, je fais souvent des détours et puis je m'assois et je regarde encore sans arrêt ce Soulage, notamment.
Vous voulez rebondir ?
Je voudrais ajouter quelque chose à propos de l'histoire de la France à travers la radio. Il y a un élément très important, c'est qu'il faut savoir, vous disiez très justement que de Gaulle au départ est contre cet édifice, mais que très vite il va avoir une mainmise de l'État sur le journalisme, non pas sur les émissions de divertissement, encore qu'il ne faut pas être trop gauchiste, indécent, etc., mais sur les journaux parlés. Par exemple, jusqu'à mai 68, il y a un contact direct entre le ministère de l'Information et les journaux, les rédactions, le rédacteur en chef téléphone et donne le contenu de l'émission. Et tout ça, ça va sauter en 68. Et c'est énorme parce qu'il y a les radios privées qui, elles, ne sont pas soumises, si vous voulez, à la tutelle ou à la censure de l'État, mais qui sont des radios d'argent, des radios qui ont des actionnaires, donc pas forcément portées vers l'ouverture, les idées, le gauchisme. Et à partir de 68, la maison de la radio va s'ouvrir, même à France Culture, à des tempéraments complètement gauchistes, révolutionnaires. Il va y avoir un vent de liberté énorme qui va sauter à partir de l'affranchissement de la maison de la radio, de la tutelle de l'État. Et c'est une étape très importante que moi j'ai vécue, puisqu'à l'époque, je suis à L'Oreille en Coin et je vois comment tout s'ouvre et comment L'Oreille en Coin va inventer purement et simplement toutes les techniques et toutes les formes de radio possibles et imaginables dont on se sert aujourd'hui. Et c'était une bande, une sacrée bande de gauchistes, ça je vous le garantis. Hein.
Claire Blandin, oui, c'est vrai que, alors mai 68, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en tant qu'historienne, mais c'est une révolution majeure en fait, hein, dans notre société française. Et je voulais dire deux choses. Un, mai 68 se passe aussi à Elle, et les journalistes de Elle en fait font un presque putsch contre Hélène Gordon-Lazareff à ce moment-là. Avec une forme de manifestation très Elle, c'est-à-dire que pour la première fois, les journalistes vont oser venir travailler en pantalon. Ça a été ça, leur révolution, au sein de la rédaction. Le pantalon, pour les femmes, c'était un vêtement qu'on pouvait porter à la maison, mais venir travailler en pantalon, ça a été leur révolution. Et ce que je voulais dire sur la radio et sur cette période gaullienne, c'est que le général de Gaulle estimait, je pense très sincèrement, que toute la presse écrite lui était hostile. Et donc c'est pour ça qu'il
avait raison. Hein.
Il fait des médias audiovisuels. Mais
il le disait d'ailleurs.
Support de communication.
Il disait laissant la presse écrite qui est contre moi, mais je veux garder la radio.
Exactement.
Et la télévision.
C'est pour ça qu'il garde ces médias et qu'il en fait des supports de communication. Alors souvent des supports de communication publics, hein, mais parfois des supports de communication
politique. Que la radio
politique.
Et la télévision sont les médias les plus puissants.
Bien
quoi.
Sûr.
Dire, c'est pas sorcier non plus. Hein.
Je rebondis sur quand vous parlez là du port du pantalon par les salariés de Elle. Vous dites aussi à plusieurs reprises que Elle n'est pas tellement féministe. C'est quelque chose que vous dites et qui peut peut-être être une idée, je sais pas, qui interroge quand on ne connaît pas forcément l'histoire de ce média.
Alors,
c'est libéral, mais c'est pas forcément féministe.
Oui, Elle, c'est un grand magazine, c'est un magazine grand public. Par définition, ce n'est pas un magazine militant. Un magazine grand public accompagne les évolutions sociétales, mais il ne peut pas initier ces évolutions. On le voit très bien autour de cette période parce que Elle, en 1970, organise les états généraux de la femme. Donc c'est une grosse manifestation, 3 jours, ouverte par le Premier ministre, etc. Ils ont collecté pendant 1 an les avis des lectrices sur plein de thématiques qui correspondent à ce que les militantes féministes évoquent à ce moment-là. Et aujourd'hui, dans l'histoire du magazine Elle, qui est largement écrite par les journalistes de Elle, dans cette histoire, il y a toujours cette idée de « Regardez, on était féministe, on a organisé les états généraux de la femme ». Sauf que quand on est historienne et qu'on va regarder ce qui s'est passé pendant les états généraux de la femme, on se rend compte que la manifestation a été perturbée par les militantes féministes qui dénonçaient une récupération commerciale, bourgeoise, politique de leur mouvement. Elle n'est pas un journal militant, donc c'est pas un journal féministe. Après, oui, il accompagne le fait que les Françaises sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le monde du travail salarié. Oui, qu'elles deviennent, la première chose, c'est qu'elles deviennent citoyennes à la Libération, et donc le journal va leur parler de ce droit de vote de manière assez concrète.
Alors, le journalisme est au cœur de nos échanges depuis le début, et il est aussi au cœur de votre livre « Mon oncle de Brooklyn », à travers le personnage fictionnel de cette jeune femme Eva, qui commence dans le métier, qui est pigiste, qui va effectivement chercher à avoir des interviews, à décrocher des interviews, comme on dit, à New York, notamment avec Toni Morrison. Pourquoi vous avez eu envie de nous faire rencontrer la ville, plein de milieux différents, et de pénétrer New York à travers cette figure de jeune femme journaliste
française?
Alors, je vais
vous dire la jeunesse de ce livre. Je venais de terminer un bouquin. Et comme d'habitude, on saura quand on termine un bouquin qu'on est très déprimé. Parce qu'on se dit, qu'est-ce que je vais faire après ? D'accord ? La vie s'arrête et par bonheur, j'ai une copine qui m'invite à venir la voir en Touraine. Elle me dit, j'ai des voisins, ils sont américains. Et la dame, elle a le même nom que ton patronyme que toi. Elle est curieuse de te rencontrer. Je la rencontre, des Sassons comme ma mère, des gens très sympathiques. Ils ne sont pas d'Égypte, mais ils sont syriens. Ils habitent New York. Et je lui dis à cette dame, vous savez, c'est très bizarre. Le plus jeune frère de ma mère, qui en Égypte était vraiment un playboy, il roulait en moto, il draguait toutes les nanas, il était champion de basketball, on est expulsé d'Égypte. Il arrive en Amérique, à Brooklyn, avec d'autres, et d'un seul coup, il y a 800 familles juives égyptiennes qui deviennent ultra-orthodoxes, alors qu'en Égypte, ils avaient un rapport très, très laxiste avec la religion. Et elle me dit, ne m'en parlez pas, vous savez ce qui vient de se passer chez eux. Et elle me dit, justement, c'est un monsieur qui s'appelle Sasson, ce n'est pas votre oncle, mais cet homme qui est extrêmement religieux, il a un magasin à Brooklyn, ils ont tous des magasins à Brooklyn, mais ils vivent en autarcie, tout en bas de Brooklyn, dans un truc qui s'appelle Ocean Parkway. Et donc, c'est un vendredi, il est pressé de rentrer chez lui avant la tombée du Shabbat, parce que comme vous savez, à la première étoile dans le ciel, le vendredi, on n'a plus le droit de rien faire, ni même d'éteindre l'électricité, enfin pour les extra-croyants, quoi. Et donc, il prend sa bagnole, il part, et ce jour-là, moi je brode un peu, mais j'ai imaginé pourquoi il est arrivé en retard à sa maison. New York est complètement en ébullition parce qu'une fois de plus, un noir s'est fait massacrer par des blancs. Il y a des manifs, des émeutes, tout le monde proteste. Et mon personnage, dans la vérité d'ailleurs, hein, il est bloqué dans une manif monstre. Il panique, il faut qu'il rentre chez lui. Ouf, il arrive in extremis à sa maison, peut-être 2 minutes avant la tombée du Shabbat. Il respire, il rentre sa voiture dans son garage, il sort de sa voiture. Et à ce moment-là, il s'aperçoit que la chaudière dans le garage émet des bruits bizarres et qu'il y a des étincelles. Alors, il dit, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Il ouvre le boîtier, il voit ça fuse de partout, ça crépite. Oh, mais qu'est-ce que ça peut être? Il regarde sa montre, il a plus que 30 secondes. Il dit, bon, ça atteindra bien la fin du Shabbat. Il referme la chaudière, il rentre, il ouvre la porte de sa maison, il appelle sa femme qui est dans la cuisine. Et la maison explose. Et dans le vrai fait divers, moi dans mon livre, mon oncle, mon malheureux oncle, il n'a jamais tué que sa femme, mais dans le vrai fait divers, cet homme-là a tué 7 de ses enfants. Et c'est une histoire vraie. Et ça m'a tellement impressionnée, je suis repartie, j'ai dit voilà mon livre. Donc, mon histoire démarre de cette façon.
Le point de départ.
C'est une journaliste qui va à New York, on est en 89, pour interviewer Toni Morrison, qui vient d'avoir le Booker Prize pour ce chef-d'œuvre absolu qui s'appelle Beloved. Et la diva est un peu capricieuse, elle l'a fait attendre. Donc, et sa mère l'appelle en lui disant, voilà ce qui est arrivé à ton oncle qu'elle ne connaît pas, va le voir. Mon héroïne va rentrer donc dans le milieu de ces juifs ultra-orthodoxes qui sont très exotiques pour elle. Ce sont comme des bantous, elle ne connaît pas ce genre de mœurs. Au début, elle est très très critique. Et puis quand elle voit, elle comprend tout d'un coup pourquoi ces gens se soudent, comme ça presque en sec. Parce que dès que l'un d'eux a un malheur, toute la communauté vole à ses rescousses. Il y a un phénomène de cimentation à cause de la solidarité. Et c'est ce qu'elle voit. Ils ont une espèce de générosité, de bonté entre eux, qui explique qu'ils s'amalgament de cette manière. Donc elle va découvrir ça. Mais d'une part aussi, comme elle attend l'interview avec Toni Morrison et que New York est à feu et à sang, et qu'en plus, il y a pour la première fois un maire, un homme noir qui se présente à la mairie de New York, la ville, ça explose de partout. Et donc, elle va naviguer du milieu des juifs ultra-orthodoxes aux noirs qui luttent pour leurs droits civiques, et elle va rencontrer, il y a une énorme histoire d'amour, enfin bref, voilà. Donc, je me sers de ça pour raconter les aventures de cette journaliste, et je me suis servi de mon expérience de journaliste de manière, c'est-à-dire que par exemple j'ai repris des choses qui me sont arrivées dans ma vie de journaliste.
Et vous reprenez même des extraits de l'interview, voilà. Ça on voilà. demande si voilà. c'est vrai.
J'avais effectivement interviewé Toni Morrison et je me suis servi de ça pour cette interview.
Vous retranscrivez là, l'interview.
Voilà, non, j'ai... Voilà. Pas tout à fait, parce que je n'avais pas interviewé sur Beloved. Mais par exemple, je raconte comment je suis journaliste. J'obtiens pour France Culture une interview avec Arletty. Et je suis tellement heureux. Je vais rencontrer Arletty, je l'admire. Je sonne à sa porte. Elle m'ouvre, elle est magnifique. Elle a déjà 80 ans. Elle est complètement aveugle. Elle a ce foulard. Elle me fait entrer. Moi, je jubile, quoi. J'admire tellement. Et alors, on commence l'entretien et c'est absolument génial. Sa gouaille, son humour, son enfance. Je bois du petit lait. Et puis, il y avait au-dessus un petit appartement très sobre. Et elle me regardait tout le temps comme si elle me voyait, alors qu'elle ne me voyait pas. Elle était aveugle. Et puis, il y avait un portrait de Céline. Et je lui dis, alors, Céline, parlons de Céline. Votre amie Céline. Et il faut vous dire que j'ai un chien que j'ai appelé Céline parce que j'admire terriblement l'écrivain et en même temps, je l'exècre pour son antisémitisme, et donc ça me plaisait beaucoup de siffler mon chien, Céline, viens ici, petit salaud. Donc, je lui demande alors vos rapports avec Céline. Elle commence à prendre la défense de Céline. Céline était un grand homme. Il a été complètement calomnié. C'est faux tout ce qu'on raconte sur lui. D'ailleurs, ce pays est pourri. C'était sous Mitterrand. Le pays appartient aux Juifs. Ils tiennent la finance, ils tiennent les médias, ils tiennent la politique. Alors moi, je suis soufflée. Je lui dis, Madame Arletty, j'ai quelque chose à vous dire. Elle me dit oui. Madame Arletty, je suis juive. Ah, vous êtes juive. C'est bien. C'est très bien. Et je dis, mais en quoi c'est bien? Elle me dit, d'avoir le courage de l'avouer. Et ça, je le reproduis et je le raconte.
Oui,
et je raconte aussi, par exemple, une interview catastrophique avec Spike Lee. Bref, je me suis servi de mes expériences de journaliste pour écrire une véritable fiction autour de ce
très romanesque aussi, très avec romanesque. Une grande histoire d'amour
avec
au milieu.
Une grande histoire d'amour, voilà. Et je crois que j'ai vraiment, dans ce livre, utilisé... mon personnage fonctionne comme une journaliste, c'est-à-dire c'est sa curiosité. Elle est curieuse de tout. Elle cherche à comprendre qui sont les gens autour d'elle et aussi empathique de tout, comme le sont les journalistes. Moi, je pensais qu'il n'y avait aucun rapport entre la littérature et les journalistes. Or, il y en a un. Le rapport, c'est que ce métier de journaliste vous apprend d'abord à rencontrer des gens, si vous vous intéressez vraiment à eux, à les comprendre, à sonder leur âme, à comprendre un peu le fonctionnement du psychisme humain, ce qui est indispensable pour un écrivain. Voilà.
Et si je peux juste me permettre de rajouter, c'est que le journaliste et l'écrivain, parce que moi j'ai écrit aussi beaucoup de romans, travaillent la même matière, qui est cette matière humaine qui forme la vie quotidienne. Tellement de faits divers que nous avons traités en journaliste sont devenus par la suite des romans. C'est des histoires d'hommes, c'est des histoires vécues. On fait le même métier, au fond. Simplement, le journaliste se permet un peu de fiction. L'écrivain se permet un peu de fiction, alors que le journaliste doit rester dans l'objectivité, l'impartialité et travailler en conscience. Quoi, voilà.
Si je peux encore un peu parler de moi, quand je suis entrée à l'Oreille en Coin, moi, j'arrivais d'Égypte. D'accord ? Je ne connaissais pas la France. J'étais passionnée par la France. Et j'ai exercé ce métier comme soit une extraterrestre qui découvre les mœurs des Français... Soit quelqu'un tombé, soit quelqu'un qui est d'abord dans un autre pays. Et j'ai fait des reportages à l'Orient Coin, c'était des reportages d'ethnologie. J'allais à la rencontre des Français, c'était ça qui m'intéressait. Donc je rencontrais des personnages quotidiens, des personnages excentriques, des personnages extraordinaires. Mais c'était ça, j'étais un peu comme... J'étais avide de connaître la France à travers les Français, quoi. C'est à ça aussi que m'a servi la radio.
On a parlé donc d'Eva, votre héroïne dans Mon oncle de Brooklyn. Ce serait qui, vous, les héros et les héroïnes de votre dictionnaire ?
Les gens qui y travaillent peut-être, je ne sais pas, ou ceux qui l'ont construit, cette maison de la radio et de la musique. Il y en a un que j'ai remis un peu en exergue, qui était complètement oublié de l'histoire, qui s'appelle Léon Conturi, qui était l'ingénieur général de la radio-télévision française. C'est lui qui a donné aux architectes toutes les consignes, ce que je disais tout à l'heure, la boîte dans la boîte, les murs, l'acoustique, etc. Toutes les consignes pour que la radio soit la plus perfectionniste possible. Et il a été un peu oublié de l'histoire, alors que c'est lui vraiment qui a tout inventé, tout spécifié, et qui était le maître d'œuvre du concours d'architecture en 1952, qu'a remporté donc Henri Bernard.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous alternez, je trouve, dans votre dictionnaire, à la fois des articles assez subjectifs, assez émotionnels, assez personnels, et en même temps, on apprend plein de choses. Je sais pas, je pense par exemple à l'article sur le bocal, ce qu'on appelle bocal dans le milieu, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, donc voilà, je trouve qu'on découvre des choses historiquement et puis concrètement, par exemple cet article.
Bien sûr, c'est mon ambition aussi de faire découvrir les coulisses de la maison de la radio, puisque cette maison, elle vous appartient ? À vous qui écoutez France Inter, France Culture, France Musique, France Bleu, FIP, enfin toutes les radios de service public. Il y a aussi les orchestres. C'est pas juste un endroit où on émet des émissions. Il y a un poète, Jean-Pierre Siméon, qui m'a dit, tout le monde dit c'est l'oreille du monde. Voilà, l'oreille du monde. Non, plutôt c'est la voix qui porte vers le monde. Lui, il me dit, moi je vois ça plutôt comme une oreille posée près de la scène qui écoute le monde. C'est-à-dire qu'à la fois il y a un échange du monde vers la radio et de la radio vers le monde. Et cette maison, elle vous appartient à tous. Parce que quand vous l'écoutez, ben vous, d'abord, c'est un lieu fantasmé depuis toujours, depuis très longtemps. C'est un lieu qu'on imagine par la voix aussi. La voix, c'est quelque chose qui transmet par les ondes et qui permet de recréer dans votre imaginaire à vous ce que produit la personne qui parle au micro. Donc c'est un lieu qui appartient à tout le monde et qui doit être à ce titre-là très important à découvrir, à visiter. Moi, dans ce dictionnaire amoureux, j'ai voulu faire découvrir les coulisses de la radio, des orchestres.
De manière très concrète.
De manière très concrète. Qui sait qu'il y a un système géothermique qui, pour l'époque, en 63, était révolutionnaire. C'est-à-dire qu'en 63, Henri Bernard, il a creusé un puits de 600 mètres pour aller rejoindre l'Albien, qui est une nappe phréatique d'eau douce sous Paris, enfin sous toute la région parisienne, pour faire le système de chauffage et de refroidissement. Qui sait qu'il y a eu, vous l'avez peut-être connu, vous, Paula, il y a eu pendant 30 ou 40 ans une crypte dans les sous-sols de la maison de la radio avec un monument aux morts. Parce que les techniciens, après-guerre, avaient exigé qu'il y ait un monument aux morts pour les soldats.
J'ai jamais entendu parler de ça.
Vous voyez ? Alors même qu'elle qui a travaillé pendant des années, des dizaines d'années, elle ne sait pas.
Moi, j'ai visité cette crypte. Ils avaient déjà la mémoire courte, c'est triste.
Je l'ai visité, cette crypte.
J'ai jamais appris.
Elle a disparu avec les travaux,
malheureusement. J'aurais été voir la crypte tout de suite.
Il y a plein de choses que les gens ne savent pas, que j'ai envie de leur faire découvrir. La première pierre. Sur la première pierre de la maison de la radio, il y a marqué « Ici est scellée la première pierre de la maison de la radio avec René Coty, le président, en novembre 1954. » Sauf que la première pierre, elle est posée dans le hall. Elle est scellée à rien du tout. Parce que Coty, il a été malade, la cérémonie a été reportée. La première pierre, elle a passé 40 ou 50 ans dans les sous-sols, sous la poussière. Et là, on l'a ressortie avec la réhabilitation. Voilà, la radio appartient à tout le monde. Donc la maison de la radio et de la musique appartient à tout le monde. Les orchestres, on y va, il y a des orchestres formidables, il y a des concerts, il y a 200 concerts par an dans ce lieu. Il y a des gens qui viennent à la maison de la radio et de la musique, qui n'y sont jamais entrés, qui pensent simplement découvrir des stations de radio. Et quand ils voient l'auditorium, 1600 places, magnifique, un orgue qui est l'un des plus beaux orgues de France, quand ils voient le 104 qui a été rénové, quand ils voient tous les studios qu'on peut visiter, où on peut assister à des émissions, il y a des visites de la maison de la radio qui se font quand ils vont dans les foyers, qui voient du Soulage, qui voient Georges Mathieu, cette magnifique fresque de Georges Mathieu, un grand panneau rouge avec des feuilles d'or et un petit morceau de tissu noir. Georges Mathieu, il a commencé cette fresque le jour de la mort de Cocteau, qui était son ami. Il a mis très longtemps à la peindre, il avait prévu le fond rouge, il voulait mettre des couleurs. Et puis, il y avait à l'époque des néons jaunes qui faisaient un truc affreux. Il n'a pas appelé parce qu'il n'y a pas de téléphone. Il a envoyé un télégramme. Henri Bernard, cher maître, je n'y parviens pas, votre lumière jaune. Il y a qu'une chose qui pourrait réussir, c'est de mettre de l'or. Banco, donc il a refait la fresque. Il a fait à la main pendant 4 jours des feuilles d'or pour faire son dessin. Georges Mathieu, c'est celui qui a fait l'ancien logo de France 2, là, faisait un peu en tiré comme ça avec un rond au milieu. C'était très. Donc ça ressemble un peu à ça, la fresque. Et il a mis le petit bout de tissu noir sur une robe qu'il a piqué à une de ses copines pour marquer le deuil de Jean Cocteau, son ami qui était mort. Voilà. Il y a ça à la maison de la radio et de la musique qu'on ne connaît pas.
On parle de journalisme avec beaucoup de passion et d'amour, mais il y a aussi des zones d'ombre que vous évoquez dans votre travail autour d'Hélène Gordon-Lazareff. Quelles sont les parts d'ombre un peu à ce mythe, cette grande patronne de presse qui invente, qui a du flair, qui crée un journal extrêmement important, elle. Vous allez aussi, je trouve, dans les zones d'ombre.
Oui, alors c'est une personnalité avec laquelle il faut aller dans les zones d'ombre parce que... C'est quelqu'un qui a aussi rapporté des États-Unis le management à l'américaine, qui, couplé à sa personnalité, qui était quand même souvent assez cassante, a sans doute fait souffrir un certain nombre de ses collaboratrices. C'est clairement quelqu'un qui découvrait les talents. Hein, on dit que c'est elle qui a découvert Brigitte Bardot, voilà, puisque c'est la série qui a été faite récemment revient là-dessus. Elle a découvert beaucoup de mannequins dans le monde de la mode. Elle voyait, voilà, elle voyait les visages, elle voyait les talents, donc elle a fait monter un certain nombre de journalistes. Hein. La première, ça a bien sûr été Françoise Giroux, qui a été rédactrice en chef du tout premier, à la Libération. Donc c'est quelqu'un qui avait ce talent pour repérer. C'est quelqu'un qui avait un talent pour tirer sans doute le meilleur de ses collaboratrices et de ses collaborateurs. Elle n'hésitait pas à les mettre en concurrence. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, en fait, il y avait presque 2 rédactions à elle et ils étaient en concurrence et on prenait le meilleur des 2 pour chaque semaine, notamment chez les photographes. Donc voilà, il y avait une pression au travail qui était extrêmement forte.
Bien sûr. Je voudrais vous poser une question. Vous avez dit quelque chose qui m'a vraiment frappée. Vous avez expliqué que sous l'occupation, Pierre et Hélène s'en vont, fuient, et qu'arrivé à New York, Pierre Lazareff est complètement abattu. Il est déprimé, il est hors jeu d'une certaine manière. Et c'est une chose qui m'a toujours frappée. Nous, qui avons été chassés d'Égypte, les hommes, dans ma famille, n'ont pas tenu le choc. C'est-à-dire qu'ils se sont fabriqués des cancers, ils ne pouvaient pas réagir, ils étaient malades. Et ce sont les femmes qui, jusqu'ici, avaient des domestiques qui étaient choyées, qui se sont autonomisées, oui, et qui ont pris les devants et qui se sont occupées des enfants. Et donc, c'est un peu ce qui a permis à Hélène cette espèce de faiblesse. Un homme qui perd son statut social, ses relations... c'est insupportable pour lui. Une femme le supporte mieux, quoi.
Les femmes sont plus fortes que les hommes.
Quand il s'agit d'atteinte à leur statut, social, je crois que les femmes sont plus fortes.
Oui, et elle avait déjà connu une migration. Elle avait déjà fui, étant enfant, la Russie. Elle avait un certain nombre d'atouts aussi. Et son atout qui est majeur, c'est qu'elle est polyglotte. C'est-à-dire qu'elle a été élevée par des gouvernantes qui lui ont parlé français tout de suite, anglais immédiatement. Donc elle est complètement bilingue. Elle ne parlait russe qu'avec les domestiques, hein, comme dans ses familles de l'aristocratie russe. Et donc, elle a déjà travaillé pour la presse anglaise et pour la presse américaine. Donc la langue n'est pas du tout une barrière pour elle. Alors que pour Pierre Lazareff, ça l'est et ça le restera.
Je suis sûre qu'il n'y a pas que ça. Par exemple, prenez le cas de Stefan Zweig, qui est un immense écrivain. Il s'enfuit et il va se suicider. Sa femme va tenir le coup et lui, l'exil, il ne supporte pas tout ce qu'il a perdu. Cette Allemagne qu'il a rêvé, qui le chasse, qu'il ne le reconnaît plus, il ne la supporte pas. Il va se tuer, quoi. Oui. Et c'est vraiment le sort de tous les hommes qui sont humiliés, offensés et déchus de leur statut, quoi. Ça me frappe beaucoup, cette histoire.
Tout à fait. Et à New York, Hélène Gordon-Lazareff se retrouve au cœur d'un petit monde comme ça, d'hommes qu'elle va... dont elle va s'occuper aussi. On pense, il y a Antoine de Saint-Exupéry qui est le principal, le plus connu sans doute de leurs amis. Mais c'est vrai qu'elle accompagne Saint-Exupéry dans toute l'écriture du Petit Prince. Il l'appelle le soir pour lui lire les chapitres du Petit Prince. Elle lui dit ça va. Et c'est elle qui va être dépositaire du manuscrit du Petit Prince à la mort d'Antoine de Saint-Exupéry. Donc oui, elle va gérer ce groupe d'hommes autour d'elle. Hein. Il y aura après Blaise Cendrars, etc. Elle a ce talent, cette force pour rebondir. Et puis il y a sa fille.
Elle est plus jeune.
Elle est pas beaucoup plus jeune. Hein, ça se joue pas à grand chose. Mais elle est un petit peu plus jeune. Il y a sa fille. Alors elle est pas du tout. Elle a jamais été maternante et maternelle avec cette fille qui s'appelle Michèle Rosier qu'elle a eue à 19 ans. Mais pendant cette période à New York. Michèle est lycéenne et elle s'en occupe quand même plus. Et donc, elle a aussi ce souci de la sociabilisation de sa fille, de la vie avec les autres à New York.
Et vous, pour le coup, votre personnage d'Eva, c'est vraiment le début du journaliste. C'est une jeune journaliste, pigiste. Et je trouve qu'on sent aussi dans votre roman la précarité aussi de ce statut.
Absolument.
Parce qu'on parlait des zones d'ombre du journalisme.
C'est comme quand j'ai commencé à faire ce métier. Vous savez, on était payé à la pige. Et donc j'ai commencé dans un truc, c'était l'équivalent de FIP, ça s'appelait Afrique Inter. On était payé au reportage, j'allais en Marseille faire des reportages. On était payé à rien du tout. Et donc on gagnait très peu d'argent et tous les après-midi on se réunissait au bistrot en maudissant notre patron, nous disant quand est-ce qu'on arrivera à gagner notre vie, jusqu'au moment où un hasard extraordinaire... j'interview un homme qui vient d'écrire un roman sur l'Afrique et donc l'interview se passe très bien. On sort et il me dit « Dites donc, vous voulez travailler à France Culture ?» Je dis « Mais oui ». Il me dit « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» Alors, au hasard, je dis « Le cinéma ». Il me dit « Quels sont les deux derniers livres, films que vous avez aimés ?» Je lui cite deux films. Il me dit « D'accord, vous êtes chef de rubrique dans mon émission.
Ouais, » C'est vraiment une autre époque.
Je rentre chez moi, j'appelle un copain, je dis « Écoute, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Jacques Florence, un mythomane total. Il m'a expliqué que... » Et le lendemain, je reçois un coup de fil de Jacques. « Vous allez voir si je suis un mythomane, vous rappliquez tout de suite. » Et c'est comme ça que j'ai commencé à être salarié à Radio France avec France Culture. Voilà. Mm-hmm. Et à l'époque, c'était comme ça. On avait une idée, on tapait à la porte d'un producteur, j'ai une idée formidable, il vous écoutait, il vous mettait à l'antenne, même si vous n'aviez pas fait d'école de journalisme. Quoi, hein. C'était magnifique à l'époque.
Les temps ont bien changé. Producteur, vous avez prononcé le mot. Moi, j'ai fait une entrée producteur dans, mm-hmm. dans mon dictionnaire amoureux. Parce que producteur, pour moi, c'est quelqu'un qui produit une émission, mais dans le service public, à France Inter, France Culture, etc. Le producteur, c'est surtout celui qui est à l'antenne
qui est au micro.
Et qui parle, qui est au micro. Nous, on dit journaliste, animateur, les périphériques disent animateur, là, on dit producteur. Et c'est lié à Roland Dordain qui avait réinventé un peu la radio dans les années 60 et à la maison de la radio. Et il avait voulu un statut de producteur pour que chacun puisse avoir un budget. Comme une maison de production, donc il gérait lui-même, il avait l'idée de l'émission, il inventait le sujet, il gérait ses frais de mission avec les personnes qu'il voulait, ses assistants, etc. Et si l'émission marchait, eh bien, la saison suivante, il était reconduit. Et Roland Dordain disait, il faut que les producteurs et les animateurs qui sont à l'antenne sachent que c'est jamais gagné et qu'il faut toujours se battre et avoir des bonnes idées. Et donc c'est comme ça que c'est né. Et en fait, ce statut de producteur est un peu bâtard parce que ce sont des gens qui se sont souvent battus justement pour être intégrés, pour ne plus être à la merci du jour au lendemain. On leur dit, aujourd'hui, ton idée, là, bon, c'était bien depuis 3 ans.
On n'est jamais intégré, en fait.
Mais cette année, voilà,
c'est ça, on n'est jamais intégré. Les producteurs,
c'est pas un CDI. Oui, mais on peut être viré du jour au lendemain.
Ça, c'est important de le dire. Moi, j'ai travaillé 35 ans, tous les ans, au mois de juin. L'émission s'arrêtait, mon contrat s'arrêtait. Je ne savais pas si j'allais être reconduite. Et pendant 2 mois, pendant juillet, quand le directeur de chaîne était un peu sadique, comme Pierre Bouteiller, par exemple, il vous avertissait à la dernière minute, au mois de juillet, que oui, vous étiez reconduite.
Ah, maintenant, c'est fini.
Sinon,
parce qu'il faut un contrat au 31
mai. Vous ne saviez pas si vous alliez retravailler l'année
suivante. Les règles ont un peu changé.
C'est-à-dire qu'on était viré au mois de juin, oui, et réengagé ou pas.
Oui, mais c'était la volonté de Roland Dordain de faire en sorte que les producteurs qui défendent leurs émissions à l'antenne soient toujours bons et toujours de très bonnes idées, ne pas rester sur ses acquis.
Oui, voilà. Soi-disant, ça facilitait la créativité artistique, enfin, je sais pas.
Oui, ça crée surtout beaucoup d'angoisse, quand
voilà,
même.
Voilà,
aussi.
Il faut le dire, non, mais c'est important. La précarité, la tension aussi de ce métier.
Bien sûr, c'est important.
Peut-être pour terminer, une question à tous les trois, justement, puisqu'on a aussi parlé de l'histoire du journalisme. Aujourd'hui, votre regard sur ce métier, vous qui ne le pratiquez plus, mais qui en êtes complètement pétri, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue, votre regard sur aussi les mutations, les bouleversements du métier aujourd'hui.
Mais il y a peut-être un grand bouleversement qui initie Hélène Gordon-Lazareff, c'est la féminisation du métier. Et les 20 dernières années, en gros, c'est... Enfin, je pense, la grande affaire du journalisme, c'est-à-dire l'hyperféminisation de ce métier. On le voit très bien dans les écoles de journalisme, on le voit chez les jeunes journalistes aujourd'hui, une féminisation qui s'est accompagnée ou qui a accompagné, je vous laisse réfléchir à cette question, une précarisation de ces métiers.
Pas forcément d'une mise en valeur. Beaucoup d'animatrices, les femmes à l'antenne notamment, mise en valeur, c'était beaucoup plus long à venir que dans les écoles de journalisme, ou même les cadres. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de cadres.
Le plafond de verre est très très présent dans ces milieux-là. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit aussi avec le magazine Elle, c'est-à-dire que Hélène Gordon-Lazareff peut être patronne d'un magazine, mais c'est un magazine de presse féminine, c'est-à-dire que c'est un secteur particulier qui a toujours été assez féminisé et où il y a un entre-soi féminin, mais qui reste. Il n'y a que très peu de journalistes qui utilisent la presse féminine comme tremplin vers d'autres carrières. Ça arrive, bien sûr, donc Françoise Giroud en l'occurrence. Mais souvent, elle reste en presse féminine ou en presse magazine.
Non, moi je dirais simplement qu'aujourd'hui, où l'information circule librement par tous les réseaux possibles et imaginables, le journaliste doit rester le phare qui éclaire un peu, parce que quand on est journaliste, Paula, elle dit « je suis plus journaliste », mais si, Paula, quand on l'a été un jour, on l'est toujours, on a une curiosité du monde, on a un regard sur le monde, et on a surtout une conscience professionnelle qui fait qu'on essaye d'approcher au plus près de la réalité des faits. Quand il y a un accident, qui est responsable? Celui qui conduit de la droite, celui qui conduit de la gauche? Alors on interroge celui de la gauche, celui de la droite. Il faut interroger les deux, il faut essayer de savoir. C'est presque une enquête policière, en essayant d'être le plus subjectif possible. C'est un truc très difficile, surtout dans les situations supra compliquées. Je ne vous parle pas du Proche-Orient aujourd'hui, mais dès qu'on donne une idée sur un secteur, les gens de l'en face vous envoient des volets de moineaux. Enfin voilà, vous traitez de tous les noms, et vice-versa. Donc aujourd'hui, je crois que le journaliste doit être le phare qui éclaire dans un monde où l'obscurantisme est en train de gagner par une diffusion massive de toutes les informations possibles et imaginables qui sont malheureusement de plus en plus invérifiables. Et de la propagande, c'est-à-dire que c'est utilisé comme de la propagande.
On finit avec vous.
Moi, je dois dire que j'ai vraiment aimé ce métier à la passion, à l'adoration. Je ne pouvais pas me passer de faire de la radio. À l'oreille en coin, par exemple, on allait, on occupait le studio, on faisait un montage pour une demi-heure, on passait 3 jours dans la cellule de montage. C'était une famille, c'était un métier que j'ai adoré. Je continue à beaucoup aimer la radio, j'écoute tout le temps la radio. Je me pose une petite question. Peut-être que je me trompe. Désormais, la plupart des émissions de radio sont filmées, enregistrées pour le podcast. Et maintenant, les gens peuvent voir la tête des animateurs, c'est-à-dire qu'on se pomponne pour paraître à la télé. Est-ce que c'est indispensable que l'image se mêle de cet art radiophonique? Est-ce que ça vous plaît, vous, de voir la tête des journalistes sans arrêt? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, ça, c'est la question que je me pose.
On finira là-dessus. Merci à tous les trois.
T'as raison, moi j'ai poussé un coup de gueule là-dessus dans mon bouquin, donc je suis avec vous, Paula.
Oui, vous en parlez dans votre dictionnaire. Merci à tous les trois. Vous pouvez retrouver le public, l'auteur et les autrices à leur stand, Flammarion, Fayard et Plomb, pour des signatures, des dédicaces. Bonne suite de festival.
Merci.
Foire.